Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, quel sera notre premier sujet du jour?
Eh bien, on va commencer comme tous les jours par une question de notre vie quotidienne. La voici, comment bien choisir sa banque? Vous savez, aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs dans le secteur bancaire, par exemple les banques en ligne, les banques pour ados. On vous aidera à y voir plus clair pour choisir la façon dont vous, je voulais, gérer vos compte bancaire ou ceux de vos enfants en 2022. On fera cet éclairage aujourd'hui avec Mathieu Robin. Il est chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir.
Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour dans lequel on vous propose un éclairage sur un sujet encore très tabou, les maladies de l'érection. Car oui, quand un homme rencontre des difficultés de ce côté-là, il y a bien souvent une cause, une vraie pathologie, c'est pas toujours dans la tête. Alors, est-ce réellement un problème de l'homme d'âge mûr? À partir de combien de pannes doit-on consulter? Comment ça se traite? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons le professeur Stéphane Droupy, chef du service urologie et andrologie du CHU de Nîmes.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, on se mettra d'abord en mouvement avec la coach sportive Anouk Garnier. Elle nous propose une petite remise en forme grâce au squat. Ça va chauffer dans les cuisses, je pense. Et puis, dans notre bande de chroniqueurs, il y aura ce midi aussi Elsa Lévy. Aujourd'hui, elle nous propose un truc quasi impossible, faire durer nos téléphones de longues années. Alors, ce sera vraiment tendance, ça. Et elle nous dit qu'elle a déniché quelques astuces pour y arriver et pour éviter d'avoir à changer de smartphone quasi tous les ans.
Et enfin, nous allons terminer ce tour de table avec la chronique évasion de Gavin Clemente-Ruiz. Aujourd'hui, il va nous inviter à la découverte d'une île. Une île portugaise bordée par l'Atlantique, j'ai nommé l'île de Madère. C'est vraiment, dit-il, le spot attesté pour des vacances paradisiaques et surtout pas trop cher.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser cette question, comment bien choisir sa banque en 2022 ?
Et oui, ça peut être un vrai casse-tête hein, aujourd'hui, tant l'offre s'est élargie. Il y a toujours les banques traditionnelles, celles de papa-maman, vers lesquelles on se tourne en général au début de sa vie financière. Et puis désormais, il y a de nouveaux acteurs. Alors, que valent les banques en ligne? Il existe même des banques pour ados. On va décortiquer tout ça dans quelques minutes avec notre invité. Mais pour amorcer ce sujet, on va en parler avec un vrai financier. Ces micro-trottoirs valent en général leur pesant d'or. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Effectivement, on va parler banque aujourd'hui. On va parler banquier. Je suis parti dans la rue avec un micro et j'ai demandé justement qu'est-ce qu'était un bon banquier.
Ça existe vraiment des bons banquiers?
Voilà la question auquel j'ai eu le plus droit. Alors pourquoi vous dites ça, madame?
C'est trop commercial, quoi. Voilà, ils sont là pour gagner de l'argent, mais pas pour nous aider.
Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils essayent de nous vendre des produits qu'eux-mêmes ne comprennent pas.
Oh, ça balance.
Oh là là, ils ont mauvaise réputation.
Hein. Ah, les Français n'aiment pas leurs banquiers, donc je me suis tourné vers les gentils, les enfants, les pré-ados, qui n'ont pas encore de compte en banque, mais ils les voient comment? Comment on imagine un banquier quand on est ado ou enfant?
Insupportable. Les films, ils sont toujours chiants. Genre, ils disent nous faisons confiance à notre client, mais même dans la vraie vie, alors que déjà le stylo, il est accroché au truc, ils ont peur qu'on vole le stylo.
Donc, ce qui choque les enfants, c'est quand on va à la banque, ils accrochent leur stylo, donc on ne fait pas confiance aux banquiers. Et pourtant, il y a bien sûr, on les embrasse, de très bons banquiers. Une question digne d'un sketch des Inconnus, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais banquier?
S'il est gentil ou pas?
Il faut que ce soit un costume trois pièces, la classe. Ça inspire confiance.
Mmh. Celui qui me fait bien placer et celui qui veut me voler de l'argent. Ça, c'est un mauvais. Et celui qui me fait bien placer, c'est un bon.
Bon, ouais, c'est pas okay, vraiment.
C'est pas faux, hein.
Il y a de plus en plus de banques en ligne, justement. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Et surtout, cette question, quand est-ce que vous avez eu votre banquier pour la dernière fois vraiment au téléphone?
Ah bah oui.
C'était parce que ma maman avait un problème de plafond. Et donc, j'ai dû appeler en urgence. C'est tout. Sinon, ça fait très longtemps que j'ai pas été voir mon banquier, tiens.
Moi, c'était pour augmenter mon plafond. Parce que, bah, madame dépensière, bonsoir. Donc, il fallait augmenter le plafond. Hein.
C'est
donc,
souvent pour des histoires de plafond,
ouais,
hein, j'ai l'impression.
Des découvertes.
Ils appellent en masqué, on se dit, tiens, Kim, ah, pourquoi j'ai répondu? ou des fois, il y a banquier ne pas répondre. Et puis, justement, ils se faisaient tellement critiquer que je suis tourné vers une dame. Et avec ma chance légendaire, je suis tombé sur une banquière qui m'a dit, oh, je sors du boulot, ne me parlez pas de ça, ça me rappelle le boulot. Elle me dit, oh, voilà, les gens parfois sont sympas, parfois sont insupportables. Et elle me dit, il y en a qu'on appelle justement parce qu'ils sont à découvert, d'autres qui ont trop d'argent. C'est qui les plus sympas, les plus riches ou les plus pauvres?
Non, c'est le contraire.
Ah bon?
Ah oui. Autant, les pauvres sont plus sympas que les autres.
Voilà, j'en ai déduit ça. Et puis, j'ai voulu casser un stéréotype quand même. Est-ce que c'est vrai que tous les banquiers sont riches?
Non, c'est faux. C'est faux. On est plus à découvert qu'autre chose. Ah,
bon. Donc si ça peut vous rassurer, si votre banquier vous appelle pour vous dire vous êtes un peu à découvert,
et
peut-être
et
que
vous,
lui
alors,
aussi.
Et vous alors, hein,
donc voilà, on embrasse tous les banquiers.
Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette introduction parfaite hein, pour notre premier sujet de ce matin. Vous pouvez rester encore avec nous, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec notre invité. Bonjour Mathieu Robin.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir. Alors premièrement, un mot justement sur la relation finalement qu'entretiennent les Français avec leur banque. On a entendu beaucoup de choses chez Clément. Ils ont une bonne image de leur banque. Je ne parle pas forcément du banquier et de la personne, mais voilà, qu'est-ce qu'on sait de la vie des Français sur cette profession et ce métier ?
En fait, ils ont une relation assez paradoxale avec leur banquier. D'une part, ils leur font assez confiance. Hein, et c'est assez normal et assez légitime d'une certaine façon, puisqu'on a... On y place son argent auprès du banquier. C'est aussi le banquier qui va eh bien, faire en sorte que tous vos abonnements, par exemple, vos prélèvements, eh bien, soient bien mis en place. Donc effectivement, ils leur font confiance à leur banquier. Pour autant, ils s'en plaignent assez souvent. Hein, parce que d'abord, c'est un secteur qui est assez conflictuel. Hein. Nous, à l'UFC Que Choisir, on a 100 000 litiges chaque année sur la banque. Hein, parce que pourquoi ? Parce qu'on comprend mal les tarifs. Parce que souvent, il y a des frais qui coûtent très cher, qui sont très mal perçus, très mal vécus par les consommateurs. Et en conséquence de ça, bah vous avez, quand vous les interrogez, un consommateur sur quatre qui souhaite changer de banque, notamment pour avoir des frais un peu moins élevés.
Alors justement, une des choses qui ressort de ce sondage IFOP, c'est qu'ils recherchent, hein, ces Français, avant tout la sécurité. C'est bien ça ? C'est leur critère principal ?
La sécurité aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Hein. Vous savez qu'il y a un essor assez massif hein, de la fraude, notamment la fraude à la carte bancaire, la fraude sur Internet. Hein. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est tellement massif que c'est environ 1,4 million de personnes qui, chaque année, en fait, se voient facturer ce type de frais. Et force est de constater, malheureusement, qu'en la matière, eh bien, les banques ne se distinguent pas en étant meilleures qu'une autre. En fait. Et donc, justement, doute là que doit y avoir une amélioration des pratiques bancaires.
Alors, comment les Français, justement, ont tendance à choisir leur banque aujourd'hui, en 2022 ? Avant, c'est vrai, on le disait tout à l'heure, on avait tendance à... Enfin, en tout cas, c'est ce que, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait autour de la table, mais moi, quand j'ai commencé à avoir de l'argent et à devoir gérer des comptes, bah, j'étais dans la banque où j'étais, celle de mes parents. C'est comme ça, aujourd'hui, que ça fonctionne aussi au début de la vie financière, en tout cas ?
Le premier argument, c'est évidemment, en fait, la question de la banque a été recommandée par un tiers ? Est-ce que, notamment, vos parents vous ont souscrit votre compte pour vous quand vous étiez enfant. Et ça, c'est vraiment un des critères qui est majeur. L'autre critère important, c'est la question de l'accessibilité. On a aussi besoin, quelque part, eh bien, de savoir que sa banque existe, qu'elle est bien gérée, qu'elle est présente sur tout le territoire, parce qu'une nouvelle fois, on a aussi besoin d'avoir une sécurité par rapport à ses comptes. Et ensuite, le troisième élément très important, c'est celui du crédit immobilier, hein, puisque c'est bien souvent le moment où le consommateur, eh bien, pour avoir le bon taux, le taux le plus attractif, eh bien, va ramener justement ses salaires, notamment auprès de cette banque.
Oui, parce que la banque, généralement, exige ça en contrepartie du prêt. On regarde parfois aussi où se situe l'agence de la banque qu'on a choisie. Est-ce que le fait que ça soit proche de chez soi, c'est un critère de sélection ?
Ça peut être un critère, effectivement, oui, parce que vous savez que les agences, notamment les agences bancaires traditionnelles, elles ont des horaires d'ouverture qui sont assez réduits, malheureusement. Mmh. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de regarder par rapport à ça. Mais un des critères qui est, à notre sens, pas du tout à se regarder, c'est celui de la tarification bancaire. Et en fait, assez logiquement, si vous prenez la peine d'aller regarder une brochure tarifaire, c'est un document qui est très long, ça fait 25 pages en moyenne.
Personne ne les lit.
Voilà, à part nous, personne ne les lit. Et justement, et ben, c'est un petit peu pour ça que les tarifs bancaires, ce n'est pas toujours en fait, le premier critère de choix. Et c'est justement là où il y a encore des marges de pouvoir d'achat qui sont conséquences considérables.
On peut les négocier ou pas ?
Les frais bancaires, c'est très difficile de les négocier. Alors, vous pouvez les négocier un petit peu quand vous avez eu des incidents. Et à la fin de l'année, vous pouvez essayer d'appeler votre banquier pour essayer d'avoir des ristournes.
Ça marche en général ou pas quand on essaye ça ?
Ça peut marcher, notamment quand vous êtes un consommateur qui est fragile, entre guillemets, dans la mesure où eh bien, c'est un petit peu un des engagements des banques, justement, d'essayer de revoir à la baisse ses tarifs quand ces frais vous ont aggravé votre difficulté.
Clément ?
Est-ce que ça sert du coup encore aujourd'hui d'avoir un banquier sympa où c'est géré bien au-dessus et il y a des, on va dire, des marques de banques que vous conseillez plus que d'autres ou une agence, quelle que soit la marque au-dessus ? Ça dépend vraiment de l'humain ou plus du tout ?
Le problème, c'est que c'est bien souvent à la tête du client. Vous êtes un consommateur avec beaucoup d'épargne et des produits bancaires et vous avez par exemple des enfants, et bien le banquier peut être attiré, enfin peut-être avoir l'intérêt justement de ne pas vous facturer certains frais justement. Malheureusement, force est de constater qu'une nouvelle fois, les plus mal lotis sont toujours ceux qui sont le moins aussi considérés hein, et que pour ces derniers, ben, ils vont avoir des frais qui sont extrêmement importants et ils auront bien souvent assez peu de chances de les négocier.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Bien-être. Ici, on ne cherche qu'à rendre votre vie quotidienne plus agréable, plus simple, et ce, dans tous ses aspects. Et aujourd'hui, on vous propose du très pratique avec cette question, comment bien choisir sa banque en 2022. Alors, on va décortiquer tout cela avec vous, Mathieu Robin. Je rappelle que vous êtes chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir. Alors, pour faire le meilleur choix en ce qui concerne les banques traditionnelles, il faut regarder quoi globalement pour choisir au mieux ? J'imagine que tout dépend de notre situation personnelle et de nos projets.
Je pense que la première chose à faire en tout début, hein, c'est déjà bien voir combien est-ce que vous coûte votre banque. Et vous seriez vraiment étonné de voir que les consommateurs, en fait, quand on les interroge là-dessus, se trompent assez fréquemment et sur des sommes assez importantes. Alors vraiment, le premier conseil, c'est de consulter ce qu'on appelle le relevé annuel de frais, qui est adressé par la banque, soit par courrier, soit par mail, soit sur votre espace banque en ligne. Hein.
Ils ont l'obligation de le délivrer.
Évidemment, l'obligation de le délivrer. Et en fait, les sommes peuvent être bien plus importantes que ce qu'on peut croire.
Je crois que c'est le mail que je mets dans la poubelle
immédiatement.
Parce que dedans, vous avez non seulement ce que vous payez tous les mois, mais aussi les agios, tous ces trucs-là.
Exactement. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte que bien souvent, vous êtes équipé d'un package. Alors, un package, qu'est-ce que c'est ? C'est une offre groupée de services dans laquelle vous allez avoir les tenues de compte, les alertes SMS, etc. Et en fait, parfois des services dont vous ne vous servez pas. Par exemple, une assurance contre le découvert. Alors, vous n'êtes jamais à découvert.
Ah oui,
et
en ça, fait, c'est facturé en plus.
C'est facturé en plus, oui. Et ça coûte parfois extrêmement cher. Et justement, bah, c'est des petits frais sur lesquels, en fait, c'est tout à fait utile de déjà savoir qu'on les paie. Et en plus, parfois, essayer justement de les supprimer auprès de son conseiller.
Vous dites extrêmement cher, juste pour avoir une idée, ça peut coûter combien ?
Ça peut vous coûter 10-20 euros dans le mois, tous les mois, pendant plusieurs années. Et donc, effectivement, à la fin des comptes, c'est assez conséquent, oui.
Le prix d'une carte bancaire, par exemple, ça peut varier du simple au double d'une banque à l'autre ?
Alors, aussi, sur les prix des cartes bancaires aussi. C'est, donc, premier point, premier élément, évidemment, regardez comment est-ce qu'on paye, essayer de voir si on ne peut pas supprimer certains éléments qui servent à un peu de choses. Et en plus de ça, si votre banque est encore trop chère, évidemment, allez regarder un petit peu la concurrence.
Parce qu'il y a aussi des frais de retrait qui parfois sont appliqués quand on tire de l'argent, mais pas dans la banque.
Ça existe encore, ça ?
Bah oui.
Ah oui. J'avais ça quand j'étais jeune, mais je ne savais pas que ça existait toujours.
Ça existe encore, ça existe de plus en plus, puisque vous avez un certain nombre d'agences en fait, qui ont fermé. Effectivement, oui, c'est des petits frais qui vont s'additionner. Un des frais importants aussi, c'est ce qu'on appelle la cotisation pour la carte bancaire, pour lesquels vous allez avoir des écarts qui sont vraiment assez importants.
Sur le même niveau de carte ?
Sur le même niveau de carte, avec à peu près les mêmes options, mais simplement la couleur qui va changer, par exemple, vous allez avoir des écarts qui sont vraiment considérables. Donc, tout à fait important d'aller regarder, bien définir son profil et essayer de regarder ensuite de cela quel est l'établissement le mieux positionné.
Bon, et si on a un peu la flemme de faire le tour de toutes les banques, il existe des sites pour comparer justement les frais de bancaire et un très bon, justement, dont vous allez nous parler tout de suite.
Tout à fait. Nous, à l'UFC Coach Audier, comme évidemment, c'est une question de pouvoir d'achat qui est essentielle, eh bien, on a notre propre comparateur bancaire qui est totalement indépendant, donc qui permet justement d'avoir une vision globale du marché sans justement être rémunéré par quelconque publicité.
Ah, oui. Sur votre site,
sur notre site, effectivement. On a aussi un comparateur pour les banques en ligne qui permet, si vous voulez absolument une banque en ligne, bien savoir distinguer justement sur quel type de frais sont les plus intéressantes.
C'est pratique ça. Alors moi je me demandais, parce que la mienne le fait et ça m'insupporte, toutes les banques physiques vous changent de conseiller tous les ans ou tous les deux ans, mais ça c'est franchement pénible. Vous êtes en train de vous attacher et paf, parce que vous lui racontez toute votre vie au banquier. Ouais. Donc c'est quand même un peu impudique, à chaque fois il faut lui réexpliquer qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos projets, et paf, au moment où vous le connaissez, vous le change.
En règle générale, effectivement, il y a beaucoup de turnover sur les conseillers bancaires. Pourquoi ? Dans les banques normales. Alors, plusieurs éléments, mais déjà, effectivement, vous savez qu'il y a de plus en plus de concentration bancaire et qu'effectivement, les conseillers bancaires, par exemple, récemment, la Société Générale et le Crédit du Nord ont fusionné et qu'effectivement, ces conseillers bancaires ne vont pas forcément augmenter autant que le nombre de clients. Et donc, vous avez de plus en plus de conseillers par client.
Moi, j'ai entendu dire aussi que la direction ne voulait pas justement qu'on s'attache à son banquier et que le turnover était là pour que...
Pas qu'on devienne copain.
Voilà, genre avec des petits passe-droits, des petites magouilles
mignonnes. C'est aussi quelque chose qui ressort, effectivement. C'est d'une certaine façon, c'est aussi pour que le conseiller bancaire ne fasse pas trop de risques parfois.
C'est dommage.
Un consommateur fragile qu'il peut voir, effectivement, oui.
Alors, on va passer à autre chose, justement. On voit de plus en plus de banques en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la banque en ligne ?
Alors, les banques en ligne, c'est très simple. C'est quasiment les mêmes prestations qu'une banque traditionnelle, sauf qu'en fait, comme elle n'a pas un réseau à entretenir, les frais sont beaucoup moins chers. Notamment, la cotisation carte bancaire peut être gratuite. Ce qui va concerner les frais d'incident, quand on est à découvert, bien souvent, en fait, ce ne sera pas facturé. Donc, tout un tas de prestations qui, pour un service relativement équivalent, puisque vous n'avez pas dans ces banques-là non plus de conseillers attitrés, peuvent être une réserve de pouvoir d'achat importante pour ceux qui veulent changer de banque.
Et ça rassure les Français, eux, qui veulent de la confiance et de la sécurité, une banque en ligne ? Moi, j'aurais peur qu'elle disparaisse.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans une banque en ligne en France.
Ouais. Alors aujourd'hui, c'est 13% des consommateurs qui ont déjà un compte auprès d'une banque en ligne. Et en plus de ça, la plupart des banques en ligne, en fait, sont des filiales de grandes banques.
Ah d'accord, donc il y aura toujours de l'argent, je veux dire, ils ne vont pas partir avec la caisse, quoi.
Effectivement, oui, ils sont aussi soumis par les mêmes obligations légales dans la mesure où ils ont aussi... Donc voilà, vos fonds sont protégés à hauteur de 100 000 euros, donc chiffre-là, c'est
à hauteur de 100 000 euros. Donc, si on est plus de 100 000 euros, on n'est pas sûr que la banque...
Au maxima, mais c'est vraiment dans un cas assez hypothétique. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet là-dessus.
Est-ce que ça nous coûte vraiment moins cher d'être dans une banque en ligne que d'être dans une banque physique? Enfin, je ne sais pas comment on dit.
Banque traditionnelle, on appelle ça comme ça. Oui.
Combien on économise?
On fait vraiment des économies, ça, vous l'avez mesuré?
Oui, vraiment. Vous avez des écarts qui... En moyenne, on peut dire que le tarif d'une banque traditionnelle, c'est autour de 250 euros, tout profil confondu. Et une banque en ligne, eh bien, c'est autour de 50 euros. Donc, c'est 200 euros de pouvoir d'achat en moyenne qu'on peut obtenir en allant voir la concurrence.
Ça vaut le coup quand même de se renseigner.
Alors, on va passer à présent à une autre tendance, hein, ce sont les comptes bancaires pour adolescents. Alors, à partir de quel âge et grosso modo, c'est quoi le principe?
Le principe, en fait, et les banques traditionnelles le font déjà, hein, c'est de permettre à des jeunes consommateurs, en fait, d'avoir un compte. Notamment, eh bien, pour les parents, c'est utile. Pourquoi? Parce que ça permet justement de permettre à son enfant de mieux gérer son budget ou en tout cas de gérer un petit peu l'argent de poche. Et ce qui est intéressant avec ces nouvelles offres, hein, c'est que justement, ça va vous permettre aux parents d'avoir en temps réel quasiment en fait, comment fonctionne le compte, est-ce qu'il est bien géré ou pas, et éventuellement bloquer les paiements. Donc c'est un premier outil d'éducation financière qui peut être
C'est comme un contrôle parental sur une carte, quoi.
Exactement.
Alors justement, on a en ligne Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes le papa de trois filles, trois adolescentes, et vous avez décidé pour les deux premières d'avoir recours à une banque pour ados. Pourquoi? C'était plus rassurant pour vous?
Disons que l'idée, c'est que vers 13-14 ans, c'est de commencer à leur donner de l'autonomie en termes de gestion de leur budget, et plutôt que de leur donner du cash, c'est de pouvoir commencer à les initier également au paiement dématérialisé. Mmh.
Comment ça fonctionne très concrètement pour vos filles? Quel avantage vous y trouvez, vous, par rapport à un compte qui serait dans une banque classique et qu'on pourrait bloquer ou surveiller aussi, d'une certaine façon?
Disons que là, la carte a pas mal d'avantages, dans le sens où je peux paramétrer complètement l'utilisation, c'est-à-dire... que ce soit la limite de dépenses, mais est-ce qu'elles peuvent retirer de l'argent? Est-ce qu'elles peuvent acheter sur Internet? Est-ce qu'elles peuvent acheter sur Internet qu'en France? Donc ça permet quand même beaucoup de choses. Et ensuite, une fois que j'ai défini ces critères, le fait d'avoir des notifications en temps réel fait que je supervise, j'ai plus besoin véritablement de gérer ou de contrôler.
Voilà,
donc
Laurent,
c'est quand même très flexible.
Est-ce que ça vous coûte moins cher que si vous aviez choisi de créer des comptes dans une banque classique?
Alors, ça me coûte un petit peu moins de 3 euros par mois, donc et par carte. Donc, c'est assez simple. Je le vis un peu comme un abonnement, je sais pas, à Netflix ou quelque chose. Voilà, ça me coûte 3 euros par mois, et ensuite j'ai aucun frais. Donc, c'est plus facile que de me dire que la carte est gratuite et puis qu'après de me rendre compte que j'ai plein de frais dans tous les sens.
Très bien, mais on a compris que vous en étiez très satisfait. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Je reviens vers vous, Mathieu Robin. Ces banques pour ados, vous en pensez quoi, vous?
C'est un nouveau service avec des éléments supplémentaires, notamment sur la vision en temps réel du solde, hein, qui peuvent être intéressants pour les consommateurs. Encore faut-il justement qu'on ait une bonne vision des tarifs qui sont appliqués.
Mais c'est une fois qu'ils sont adultes, ils doivent basculer sur une banque normale. Comment ça se passe pour ces enfants-là?
Oui, alors, en règle générale, de toute façon, ils basculeront sur une banque traditionnelle. Hein. Là, c'est vraiment des nouvelles offres qui sont assez ponctuelles. Hein, et évidemment qu'à terme, ils auront besoin d'avoir une autorisation de découvert qui n'est pas du tout prévue sur des banques de ce type.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. On tente de choisir la bonne banque, celle qui conviendra le mieux à votre situation ou à vos projets. On en parle avec Mathieu Robin, chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir. Alors Mathieu, on a des questions de nos auditeurs pour vous, des questions très pratiques. La première, c'est celle de Michel sur le compte Insta de l'émission. Il dit que l'une de ses amies a tendance à changer de banque très régulièrement. Elle me dit que c'est pour bénéficier de certains avantages. Est-ce qu'on économise vraiment en faisant cela?
Le premier élément sur lequel vous pouvez un petit peu jouer, c'est ce qui va concerner la prime de bienvenue. Vous avez des banques en fait, qui vont donner 80 euros, 100 euros, 120 euros parfois pour justement avoir, eh bien, pour ouvrir un compte chez eux. Malheureusement, c'est bien évidemment soumis à des conditions.
Oui,
notamment
parce que je pourrais en ouvrir toutes les semaines, moi, des nouveaux comptes en fait, qui ne me servent pas à grand-chose, mais juste pour toucher la prime. Ouais.
Voilà, donc il faut déjà verser une somme qui va être plus importante, hein, 300, 400 euros, donc c'est déjà assez conséquent. Et en plus de ça, ça a quelques risques. Hein. Évidemment, c'est le risque de double comptabilité, avec évidemment des frais qui peuvent être facturés par EDF dès lors que vous n'aurez plus assez d'argent sur votre compte, celui que vous avez quitté. Donc c'est tout un tas de difficultés qui peuvent se poser derrière. Donc c'est sans, c'est par, c'est, 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 Zépéry.
Oui. C'est pas tellement intéressant d'après ce que je comprends. On a une question de Nordine via Twitter. Il dit « Il m'arrive de temps en temps de finir le mois à découvert. Le problème, c'est que je paye des agios. Est-ce qu'il existe un moyen pour réduire mes frais de découvert ?»
Alors la première solution assez pratique, hein, c'est d'aller voir son conseiller bancaire et essayer de, justement d'augmenter son plafond, d'augmenter son autorisation de découvert. Ah. Ça, c'est vraiment important puisque vous allez, si vous avez obtenu une augmentation, eh bien, pas devoir vous faire facturer des commissions d'intervention qui chacune coûtent 8 euros. Donc c'est vraiment un élément...
8 euros ?
C'est 8 euros.
Mais c'est plafonné, si c'est 2 euros de, je dis, de, comment dire, d'interdit, enfin, ça n'a pas marché pour un paiement de 2 euros par carte, on aura 8 euros d'accident.
Oui, ou 7,56 euros en moyenne. Ouais. Mais effectivement, oui. Donc c'est très conséquent. Évidemment, c'est un moyen très rapide et assez radical de faire des économies de pouvoir d'achat importantes. Ouais.
Oui. Pour nous donner une idée, il y a beaucoup de Français vraiment qui payent ce genre de frais bancaires, Mathieu Robin ?
En règle générale, on dit qu'il y a un Français sur 4 qui en paye. Et vous en avez, en plus de ça, quasiment 1 million, 1,5 million qui sont dits comme étant fragiles. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont payer très très régulièrement, quasiment tous les mois, ce type de frais. Et pour ça, eh bien, il y a des nouvelles règles qui ont été créées assez récemment qui prévoient justement de plafonner ces frais à 200 euros dans l'année ou à 250 euros selon l'offre que vous allez souscrire derrière.
Vous dites prévoit, c'est-à-dire que ce n'est pas encore tout
à fait
le cas.
Qui le permet, qui le permet, mais en fait, il faut être fragile, détecté comme étant fragile par sa banque et malheureusement, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Mais évidemment, ce qu'il faut dire à vos consommateurs qui sont dans ces situations-là, c'est de ne pas hésiter d'aller voir une association de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir, qui peut vous conseiller pour évidemment essayer de faire des économies qui peuvent être considérables pour...
Bien sûr. Oui, parce que vous imaginez, si vous payez 200 euros d'agio par an, c'est énorme. Et le banquier, il peut faire un geste quand même, c'est ce que vous disiez au départ. Mais tout dépend de la situation, il faut insister aussi, non ?
Évidemment, en tout cas, il faut toujours bien connaître la loi, la réglementation, c'est les choses qui s'appliquent. Hein. Évidemment, aussi, c'est tout à fait utile pour ça de se faire aider.
Donc ce que vous nous dites, c'est que plus de 200 euros par an d'agio, c'est interdit.
Non, ce que je vous dis, c'est que quand on est fragile dans une banque, en fait, eh bien, la banque ne doit pas vous prendre plus de 200 euros.
Voilà. Mais qui dit qu'on est fragile ? C'est eux
En fait, il y a des critères qui dépendent un peu en fonction des banques, etc. Donc c'est justement un élément sur lequel il faudra évidemment revenir pour la présidentielle pour imposer à ce que ces critères soient beaucoup plus inclusifs
et mettre
un terme à ces dysfonctionnements qui sont assez graves pour les personnes qui les payent.
Tout à fait. Alors on a une question de Robert qui habite dans le 71 sur Facebook. Il dit « À l'avenir, faut-il s'attendre à devoir choisir uniquement des banques en ligne ? Ça me fait très peur car j'aime avoir une agence, un conseiller, bref, gérer mes finances à l'ancienne. »
Vraiment, la disparition des établissements bancaires traditionnels, c'est pas pour tout de suite et c'est pas pour demain, dans la mesure, une nouvelle fois, où les banques en ligne, ce sont systématiquement aujourd'hui des filiales des grandes banques. Donc, c'est pas pour tout de suite, en tout cas.
Mais vous avez dit que 13% des Français qui ont des comptes en ligne, donc ça laisse encore la part belle aux agences bancaires et aux banques traditionnelles. Justement, toujours sur les banques en ligne, on a Monique qui nous demande si c'est simple de gérer ses comptes en ligne quand on n'est pas un geek. Elle demande si même l'ouverture de ce compte-là est quelque chose de gérable quand on n'est pas un spécialiste de l'informatique. Oui.
Il faut systématiquement se rendre sur le site internet de la banque. Après, les démarches sont quand même assez simples. Quand vous avez l'habitude de faire des achats en ligne, il suffira simplement de télécharger votre carte d'identité, par exemple, de faire un premier versement auprès de cette banque. Donc, des démarches qui sont assez simples, qui sont facilitées justement parce que les banques ont tout intérêt à ce que vous puissiez aisément souscrire chez elles.
Ça s'ouvre en quelques clics, vraiment ? Enfin, ça prend quelques minutes ou c'est un petit peu long ? Enfin, je me rends
pas compte. Ça prend quelques jours parce qu'il faut bien évidemment que la banque vérifie vos documents d'identité, qu'elle ait aussi réceptionné les fonds sur lesquels vous devez verser auprès d'elle. Quoi.
Mais j'imagine qu'il faut scanner tous les documents. Il faut quand même être un peu geek pour y arriver, non ?
Oui, après maintenant, ça se fait assez simplement. De
scanner avec le téléphone.
Oui, mais
attendez, moi je pense à mes grands-parents, tout ça, c'est pas évident. Hein, c'est la banque en ligne,
pas pour eux encore.
Ah ouais, peut-être que c'est pas totalement inclusif pour tous ces gens-là. Et est-ce que ces banques en ligne vous proposent les mêmes services, c'est-à-dire assurance vie, assurance retraite ? Est-ce que c'est exactement les mêmes produits bancaires qu'une agence traditionnelle ?
Vous avez tous les mêmes services, à la fois en termes d'assurance, en termes de produits d'épargne, aussi évidemment en termes de crédit immobilier,
crédit à la consommation.
Oui, qui sont parfois aussi un peu plus intéressant que les banques traditionnelles. Mais bon, ça dépend des temps. Il faut bien vérifier avant
intéressant,
de faire
son Intéressant, vous
choix.
M'intéressez. Ça veut dire que les taux des banques en ligne sont plus bas que les taux des banques classiques ?
Ça dépend. C'est vrai, ça dépend des périodes. Ils font des promotions sur ce type de taux, notamment les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation. Donc, c'est vraiment, il faut aller vérifier un petit peu.
On va aller jeter un œil. Mais vous ne croyez pas qu'il y a aussi une dimension humaine dans la relation à sa banque et le fait de ne jamais voir ou de ne jamais avoir en ligne le même conseiller empêche peut-être, je ne sais pas, de démouvoir son conseiller je sais pas, il y a de l'humain aussi derrière l'argent.
Elle doit faire l'actrice, hein, je pense, quand elle va chez son banquier.
On a tous, à un moment donné, essayé d'amadouer son banquier.
Non, moi, non. Jamais. Je sais pas, vous, hein, je pense.
Moi, oui. Donc, si je sais pas qui c'est compliqué, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis d'accord avec vous, mais après, l'intérêt aussi pour le consommateur, c'est d'être bien informé. On peut bien souvent s'informer assez plus facilement quand on est sur Internet, quand on a toutes les documentations possibles et qu'on n'est pas soumis justement à un seul discours commercial.
Question de Nicolas B sur les banques en ligne, toujours. Il demande comment faire pour déposer un chèque pour verser de l'argent ou pour verser de l'argent liquide sur son compte en banque en ligne.
Alors, pour déposer un chèque, bien souvent, en fait, il va falloir adresser un courrier
par la poste.
Ouais. Oui, vous avez aussi des banques en ligne qui sont filiales justement de grandes banques traditionnelles et dans lesquelles vous allez pouvoir déposer ces chèques. Mmh. C'est assez simple. Pour ce qui va concerner les espèces, alors certaines banques proposent justement des mandats sur lesquels vous allez pouvoir
envoyer alimenter, vos billets,
voilà, exactement. Ouais. Et la plupart, par contre, ce n'est pas possible. Donc effectivement, ça reste une des limites assez importantes pour certains usages.
Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Robin, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Grâce à vous, on a toutes les cartes en main pour faire le bon choix. Les cartes, vous avez compris, Julia, pour choisir la bonne banque en fonction de notre profil. C'était du pratique et on a appris pas mal de choses. Merci.
Oui, merci à vous. À présent, Mélanie, on va changer totalement de sujet. On va faire un focus sur un sujet encore très tabou, les maladies de l'érection. Quelles en sont les raisons principales ? À partir de quand faut-il consulter ? Et surtout, comment les traiter ? C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors, pour parler de ce sujet un peu sensible, nous sommes en studio avec le professeur Stéphane Droupy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service urologie et andrologie au CHU de Nîmes. Alors, pour démarrer, on va parler d'un constat. Les troubles de l'érection au sens large, c'est un sujet tabou, mais bien plus fréquent qu'on ne l'imagine, je crois.
Oui, alors, tabou peut-être plus pour une partie des gens au-delà de 60 ans. Je pense que maintenant, tout le monde sait à peu près que ça peut arriver depuis 25 ans, bientôt, de la mise sur le marché du Viagra. Tout le monde en parle. En revanche, on a pris conscience qu'il y a une partie des jeunes de moins de 30 ans qui souffrent de ce problème. Et pour eux, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. C'est des gens qu'on ne voit pas du tout. Et il y avait une enquête de l'IFOP qui montrait qu'il y avait jusqu'à 23% des jeunes de moins de 30 ans qui souffraient régulièrement ou de temps en temps, et c'était corroboré par les données des femmes du même âge. Donc
Qui ne consultent pas, parce qu'ils n'osent pas.
Ils ne consultent pas, et on s'aperçoit en plus qu'ils commandent des médicaments dans 80% des cas sur Internet.
Ils se mettent en danger en plus. Donc,
Probablement, oui.
Alors on va reprendre les bases. Hein. Déjà, comprendre comment ça marche l'érection. Qu'est-ce qui provoque la dureté d'un pénis ?
Alors le pénis, c'est une espèce d'éponge vasculaire, entourée par une membrane solide, on va dire. Hein. Mm-hmm. Pas trop solide, mais solide quand même, il faut faire attention. Et cette éponge, elle est active, ce qui fait que, à l'état flaccide, on va dire quasiment toute la journée ou pas, enfin bref, elle est contractée. Et puis, au moment d'une stimulation, elle va se relâcher, laisser le sang artériel rentrer à l'intérieur, et c'est ça qui va permettre d'augmenter le volume et puis d'obtenir la rigidité.
Si je me trompe pas, il y a comme un robinet entre guillemets, hein, qui, en dehors de la phase d'érection, le robinet de sang, il est fermé, hein, c'est ça le reste du temps.
Le robinet, on va dire, il y a le système artériel qui va remplir cette éponge, mais c'est l'éponge qui décide en fait. C'est-à-dire soit elle est contractée et à ce moment-là, c'est la flaccidité. Soit elle se relâche et à ce moment-là, elle laisse entrer le sang.
D'accord. Alors, on vient de comprendre ce qui se passe quand le pénis se met en érection. Mais ce qui est bien, c'est quand cette érection, elle dure un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour la maintenir, l'érection ?
Alors, c'est très complexe. En fait, il y a plein de petites choses qui peuvent la rendre fragile par ailleurs. C'est-à-dire que d'une part, il faut que l'éponge, que ce tissu-là soit de bonne qualité, donc pas abîmé par les maladies cardiovasculaires qui vont avoir tendance à abîmer le tissu et le revêtement de ce tissu, ce qu'on appelle l'endothélium, hein, qui peut être très fragile quand on a de l'hypertension, quand on fume, quand on fait pas de sport, quand on a du cholestérol, par exemple.
Ah oui, elle s'abîme vite, hein, cette éponge. Elle s'abîme, hein, c'est fragile, vite. En fait.
Ouais,
hein,
c'est l'intérieur des vaisseaux. Ouais, c'est l'intérieur des vaisseaux. Il faut que les nerfs, et je parle là des nerfs depuis le cerveau, hein, soient fonctionnels. Et donc, ça fait intervenir beaucoup, beaucoup de choses. Il faut que les artères fonctionnent bien, puisque c'est une arrivée de sang. Et puis, il faut que le système hormonal soit aussi pas défaillant.
Mmh. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent bien fonctionner pour arriver au bout. Donc, l'érection aussi, il y a l'érection, la fameuse érection matinale, c'est fréquent. Une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi il y a cette érection matinale ? Parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, si je ne me trompe pas. Hein.
Non, ça n'a pas à voir vraiment avec la sexualité. On parle plus volontiers d'érection nocturne, en fait, puisque c'est des érections qui sont concomitantes du sommeil des rêves, du sommeil paradoxal.
Alors, c'est peut-être quelque chose de sexuel, alors, finalement.
C'est des rêves érotiques ou pas forcément ?
Pas que des rêves érotiques, non, en fait. C'est-à-dire que cette phase de sommeil paradoxal qui arrive toutes les heures et demie, deux heures pendant le sommeil, c'est une phase de sommeil très profond avec un relâchement musculaire complet. les mouvements oculaires rapides, hein, les REM, et puis une érection.
Ah oui, donc il y en a plusieurs fois dans la nuit, en
voilà,
fait,
celle y en a
du matin, entre guillemets, voilà. Ça arrive à plusieurs reprises.
On peut les enregistrer, il y a des dispositifs pour les enregistrer.
Et je crois que lorsque justement elles disparaissent, éventuellement, ces érections, alors matinales, moi je reste sur mon matinal, même si on a compris qu'il peut y en avoir plusieurs dans la nuit, mais c'est peut-être le signe qu'il y a un souci, non, je crois, quand elles disparaissent, quand il n'y en a plus.
Alors effectivement, elles sont très sensibles, notamment aux variations hormonales. C'est-à-dire que quand il y a un déficit en testostérone, c'est les premières érections qui vont en souffrir, entre guillemets. Mm.
Alors, les problèmes d'érection, on a compris que ça pouvait concerner les hommes à tous les âges. À partir de quand on considère véritablement qu'il y a un problème ?
Alors, effectivement, ce n'est pas une petite panne, une fois de temps en temps, qui peut être considérée comme un vrai problème d'érection.
Il ne faut pas s'inquiéter dans ces cas-là, on est
voilà,
d'accord.
Il ne faut pas s'inquiéter.
Les femmes qui disent « mais non, t'en fais pas mon chéri, ce n'est pas un problème », on n'a pas tout à fait tort.
Non, on n'a pas tout à fait tort. Il faut savoir depuis combien de temps ça dure. Effectivement, ça dure depuis 2 ans.
Là, peut-être... là, il faut s'inquiéter quand même.
Problème. Non, en gros, dans la définition officielle, c'est des problèmes qui sont récurrents quasiment à toutes les tentatives et qui durent depuis plus de 3 mois.
D'accord. Ah oui. Voilà. Et là, on est d'accord, il faut consulter. C'est ça la première chose à faire.
Consulter, ouais. Oui.
On ne regarde pas sur Internet, on ne cherche pas des médicaments sur Internet. Tout ça, c'est évidemment déconseillé.
Oui, là, c'est déconseillé. Ouais.
Et on consulte qui ?
Alors, je pense que le premier recours, c'est le médecin généraliste, d'abord parce que c'est lui qui vous connaît, qui connaît votre famille, qui connaît votre vie. Qui connaît les médicaments
ça
que vous prenez.
Ça peut gêner les gens, ça, justement. Le côté, il me connaît trop bien, j'ai pas envie.
C'est vrai,
voilà.
C'est vrai, oui. Moi, je suis dans un coin où les gars tutoient leur médecin généraliste, donc...
On n'a pas forcément envie d'en parler au monsieur qui nous suit depuis toujours. Si justement on a cette gêne, on va voir qui ?
Un urologue, andrologue ?
Eh bien voilà, on va aller voir un urologue ou un sexologue. Aujourd'hui, en France, les sexologues sont des médecins, la plupart, et ont un diplôme la plupart du temps. Et donc, du coup, on peut quand même avoir toute confiance dans les sexologues français et les urologues, effectivement. Oui.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. À présent, je vous propose un éclairage sur les problèmes d'érection, sujet tabou mais assez fréquent. On va faire le point sur ce sujet sensible avec vous, professeur Stéphane Droupy. Je rappelle que vous êtes chef du service urologie et andrologie du CHU de Nîmes. Alors professeur, on a défini juste avant quels sont les critères pour parler véritablement de dysfonction érectile. Quel que soit l'âge du patient, c'est toujours important de consulter pour ce motif. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça peut éventuellement cacher autre chose ?
Alors oui, et notamment chez les gens qui prennent un peu d'âge. Autant chez les gens de moins de 45 ans, la cause est le plus souvent psychologique, relationnelle, stress, etc. Autant au-delà de 60 ans, on va dire que c'est quand même très très fréquemment lié à...
un problème de tuyaux.
Un problème de tuyaux, alors de plein de tuyaux.
Je dis ça parce que vous disiez artère, évidemment.
Mais on a plein de tuyaux, on n'est fait que de tuyaux, en fait. Et oui, il y a les problèmes cardiovasculaires qui, très clairement, sont importants parce que la dysfonction érectile peut être un symptôme sentinelle. C'est-à-dire qu'on peut commencer par souffrir de dysfonction érectile et 3 ans plus tard, faire un infarctus. Donc c'est important de le reconnaître dans ce sens-là. Les gens qui ont des facteurs de risque, tabagisme, cholestérol, hypertension, sédentarité, sont des gens qui sont à risque. Et on sait qu'ils ont plus de chances de faire un accident grave.
Donc même si du point de vue, on va dire, sexuel, ça ne vous pose pas de problème, ça peut arriver, hein, qu'un homme s'en fiche et n'ait pas envie de consulter pour ça, allez-y, parce que peut-être ça peut être le début de quelque chose de plus grave au niveau cardiaque, notamment. Hein, c'est ça. Donc ça vaut le coup, effectivement, de consulter, on a dit, un généraliste ou un urologue ou un sexologue. Enfin, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont médecins. On a vu des articles sur des cas de dysfonction érectile, là, on est un peu plus dans l'actualité, après une infection de Covid. Est-ce que c'est vrai ? Comment ça peut se produire ? Et si oui, quel est le lien ?
Alors oui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'érection, c'est un reflet de la bonne santé. Et le Covid, c'est plutôt un état de mauvaise santé. Donc à ce titre-là, on va dire qu'un petit Covid, comme on en voit pas mal aujourd'hui, un rhume, ça ne va pas poser de problème, pour être clair. Mais un gros état de fatigue, un Covid long, des séquelles respiratoires, etc. Oui, on va passer dans une maladie chronique. Et dans ce cadre-là, bien sûr qu'on va se retrouver avec des dysfonctions érectiles, on ne les voit pas encore vraiment pour le moment.
Mais c'est parce que l'état général est mauvais, voilà, que finalement ça marche
c'est
plus de ce
côté-là. C'est provisoire, rassurez-nous. Rassurez-les.
Rassurons-nous.
Oui.
En pratique, il y a de petites études qui ont montré des virus à l'intérieur du pénis et dans les testicules. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir, parce que c'est juste que c'est un tropisme du virus pour les tissus vasculaires, donc ça marche aussi. Mais aujourd'hui, il y a une étude qui est sorti là de l'Université de Floride, qui montre qu'il y a quand même un risque multiplié par 3.
Ah oui.
Pour les gens qui font un Covid versus une population contrôle qui n'en fait pas, c'est passé de 5% à 15%. Et aujourd'hui, sur les Covid longs, on ne sait pas
exactement,
mais on peut penser que toutes les séquelles de maladies chroniques s'appliqueront. Et on sait que les maladies chroniques sont pourvoyeurs de
disfonctionnement érectile. Trouble de l'érection après Covid ou pas, de toute façon, consultez. Oui, voilà, le message est le même. Y a des examens que vous proposez déjà quand un homme, justement jeune ou pas, vient vous consulter pour des troubles de la dysfonction érectile. Je ne sais pas, est-ce que vous allez passer des examens d'imagerie, enfin, qu'est-ce que vous faites comme check-up, on va dire?
Alors, assez peu. Il faut vérifier qu'il est en bonne santé, donc vérifier qu'il n'a pas de diabète, pas d'insuffisance rénale. On vérifie la plupart du temps les hormones, donc la testostérone.
Bien sûr.
Mais c'est à peu près tout. Le reste, c'est un diagnostic d'interrogatoire. On ne fait pas systématiquement d'écho Doppler. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de choses comme ça. On fait le point avec le patient et ensuite, le traitement va être un traitement qui va être défini sur l'efficacité. Hein, on veut une meilleure érection, donc on va essayer de l'obtenir.
Donc vous tâtonnez peut-être au départ, vous prescrivez un premier médicament. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, on
cherche autre
chose. On ne débouche
pas les vaisseaux, en fait. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui permette de déboucher un vaisseau ou de changer un nerf. Quoi.
Un homme qui perdrait du poids, parce que par contre, on sait, avoir de la graisse abdominale, ce n'est pas bon pour la santé cardiovasculaire, mais un homme qui perd du poids, ça peut être des érections qui s'améliorent, par exemple?
Alors, il faut le faire assez tôt.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on pense qu'au-delà de 55 ans, la prévention ou la prévention secondaire, ça ne va plus être très, très efficace. Mais avant, oui.
Donc, éviter de grossir en vieillissant,
éviter de fumer, traiter précocement votre hypertension, garder une activité physique, et ça évitera que vous fassiez des problèmes d'érection.
Est-ce que l'origine peut être uniquement psychologique, parfois, comme on l'entend beaucoup?
Alors, oui. Oui, il y a...
Chez les jeunes, sur
ce que
vous disiez.
Ce que je vous disais, chez les jeunes. Après, il y a souvent un entremêlement de facteurs, on va dire, organiques, c'est-à-dire de facteurs de maladie, et puis de facteurs psychogènes. Hein. Mm-hmm. Mais effectivement, avant 45 ans, c'est très, très, très vraisemblablement un problème psychologique majoritaire. Après 60 ans, il y a souvent quand même des problèmes associés. Mais les deux sont souvent intriqués. Quand même.
Vous disiez que vous vérifiez les hormones, notamment la testostérone chez ces hommes qui viennent pour une dysfonction érectile. Est-ce que là, pour le coup, si vous voyez que il manque de la testostérone, vous en rajoutez, puis ça peut régler le problème, ça c'est possible?
Ça peut, oui. Si c'est le problème majeur, effectivement, on va être dans ce qu'on appelle un syndrome de déficit en testostérone, souvent lié à l'âge. Hein, c'est appelé andropause, etc. Mais ce n'est pas très très clair, andropause. Donc on parle plutôt de syndrome de déficit en testostérone. Et là, oui, s'il manque de testostérone, que c'est avéré et que ça entraîne d'autres symptômes, la dysfonction érectile, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Les hommes vont perdre leurs muscles, etc. Oui, il y aura une indication à leur donner la testo. Ouais.
Alors, parlons de ces fameux médicaments comme le Viagra ou le Cialis et les autres traitements qui ont été une révolution dans ce domaine. Comment ils agissent, eux, grosso modo? C'est ça, ils rajoutent de la testostérone? Non,
du tout.
Ça marche
alors,
pas
c'est
comme
absolument
ça.
Pas hormonal. Ce sont des facilitateurs, en fait. Donc, ils ne vont pas déclencher une érection.
Ça a été découvert un peu par hasard, non? Je crois d'ailleurs l'effet sur l'érection, en tout cas.
C'est ça, oui. Le sildénafil, donc le Viagra, est un médicament qui avait été testé pour les maladies cardiaques et qui n'était pas très, très efficace sur l'angine de poitrine. Par contre, les gars disaient, tiens, par contre, je m'en mieux.
Je suis en forme.
On avait dit,
non, on va peut-être le dérouter. Ouais, mais ça marche comment alors?
Alors du coup, ça va relâcher, ça va améliorer le potentiel de relaxation de cette éponge, là, dont on a dit qu'elle était essentielle. Et ça va lui permettre d'être relâché plus longtemps et plus totalement, ce qui fait que ça va permettre des érections plus longues et de meilleure qualité.
Alors, il faut le prendre avant chaque rapport sexuel, là? Comment ça se passe?
Alors, il y a deux types de modalités d'utilisation. Pour tous les IPDE5, donc ces médicaments-là de la famille du Viagra, on peut les prendre à la demande, c'est-à-dire on les prend environ une heure ou deux avant le rapport. Et on va dire, en fonction des produits, ils ont une action qui va durer de 10 à 48 heures. Donc ça, c'est une prise à la demande.
Il faut quand même être sûr à peu près de ce qui va se passer derrière. S'il ne se passe rien, il se passe quoi?
S'il ne se passe rien, il faut regarder...
ah oui, d'accord, il faut s'arranger soi-même.
Un débat politique ou un truc comme ça pour ne pas avoir d'érection.
C'est ça, oui, parce qu'après, s'il n'y a pas le stimuli, il ne va rien se passer. C'est pas dangereux, c'est ça?
Normalement,
ah,
non,
oui,
il va rien se passer.
C'est des sens de ma question.
Non,
si on prévoit une bonne soirée et qu'elle n'est pas si bonne que ça, comment on fait?
Non, à dose thérapeutique, il n'y a aucun risque.
D'accord.
Et il y a l'autre modalité, pardon, pour répondre complètement à votre question, l'autre modalité de prise qui est en prise quotidienne. Donc, il y a un des produits qui s'appelle le Tadalafil, qui est le Cialis. On peut prendre à petite dose, 5 mg, tous les jours. Et ça évite d'avoir
c'est pas mal,
programmé.
Ça. On n'a pas à prévoir.
Voilà, mais par contre, il faut avoir une utilisation suffisante. C'est-à-dire que si vous avez un rapport tous les mois,
ça sert à rien,
un comprimé tous les jours, les gars, ils ne vont pas s'y retrouver, ni financièrement, même si c'est quand même moins cher aujourd'hui, ni dans le fait de prendre un médicament tous les jours, il peut y avoir des effets secondaires. Mais quand on a des rapports régulièrement,
pourquoi
effectivement,
pas.
C'est très
ça
bien.
Ça fonctionne chez tout le monde ou pas? Il y a des hommes qui sont réfractaires, enfin chez qui ça ne fonctionne pas.
Oui, toujours. En gros, c'est quand même des médicaments qui marchent très bien. On peut dire que trois quarts des patients vont avoir une amélioration de leur état et certains vont être complètement normalisés. Oui.
Et vous en pensez quoi des crèmes pour avoir une érection plus durable? Ça agit comment? Est-ce que ça donne de bons résultats?
Alors, il y a plein de choses qui se vendent qui ne sont pas des vrais médicaments, qui n'ont pas été testés, notamment tout ce qui va être en application cutanée, il n'y a pas de preuves. Il y a des, ce qu'on appelle peut-être des crèmes ou des gels, et notamment il y a l'alprostazid qui est en gel, qui est un médicament qu'on met dans le canal de l'urètre, et lui va pouvoir déclencher des érections. Les autres, c'est quand même pas très bien prouvé. Hein.
Bon, il y a d'autres choses. Hein. Il y a des injections dans les corps caverneux, donc ça c'est des auto-injections. Il y a aussi des prothèses. On n'a plus beaucoup de temps, donc je passe un peu vite là-dessus, mais on vous réinvitera parce qu'on a envie d'en savoir plus quand même. J'ai vu par contre qu'aux États-Unis, il y avait des solutions contre la dysfonction érectile qui consistent à des injections de plasma. C'est quoi le principe et c'est utilisé en France,
ça ? Alors, ça arrive tout juste. Hein. C'est du plasma riche en plaquettes. C'est en fait, on prend votre sang. Mmh. On le centrifuge, on récupère une partie qui est soi-disant riche en facteurs de croissance et on vous le réinjecte directement dans votre pénis. Et ça, c'est censé améliorer la qualité des érections.
Et
en fait, ça a été pendant très longtemps, sans aucune preuve. Là, il y a deux petites études qui commencent à sortir. Franchement, c'est encore...
C'est pas le futur, selon vous, pour l'instant.
Ce sera peut-être le Botox, j'ai entendu parler du Botox.
Alors, le Botox, là... Oui,
ça, il y a une étude qui va se lancer en France, je crois.
Française, ouais. Oui, c'est François Juviano qui est à Garches, qui a inventé ça, qui a trouvé ça. Et là, on démarre une étude, enfin, il démarre une étude multicentrique avec un comparateur. Et
là, donc ça n'a pas démarré. On attend les résultats. Vous allez démarrer l'étude.
Voilà, mais déjà, ça marche bien sur le front. Pour le reste, on verra. Est-ce que du côté des compléments alimentaires, il y a quelque chose en phytothérapie, par exemple, quelque chose de naturel qui pourrait aider à l'érection ?
Alors, il faut faire attention, puisqu'il y a des produits naturels qui vont être adultérés avec des IP2E5. Aujourd'hui, quand on a la corne de rhinocéros ou l'élan de requin, l'idéal, c'est de mettre du Viagra dedans. Comme ça, on est sûr que ça marche et qu'on en vend. La plupart des produits naturels sont adultérés avec ce type de produit aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention parce que les doses sont aléatoires. Et puis après, il y a effectivement quelques produits naturels de phytothérapie comme le ginseng rouge, le ginkgo biloba.
Ça marche, ça améliore la santé érectile.
Ginseng rouge, ouais.
Ginseng rouge, ginkgo biloba, il y a la maca, je ne connais pas personnellement, il y a la yohimbine.
Mais il y a des preuves de tout ça.
Tous ces produits-là, on fait une petite étude un jour.
Ouais.
Et puis après, voilà. Donc très probablement que ça avance. Ça n'améliore pas considérablement les choses.
Mais si vous y croyez très fort,
voilà.
Peut-être.
On sait que dans ce domaine, de toute façon, on prend n'importe quoi, il y a 30% d'amélioration.
Ah, donc, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Comme quoi dans la tête. Hein.
Bah ouais, il s'en passe des choses. Merci beaucoup, professeur Droupi, de nous avoir accompagnés ce matin. Et merci pour toutes ces précisions sur ces problèmes encore trop tabous chez les hommes. Et c'est dommage, parce qu'on l'a vu, il y a de nombreuses solutions. Donc n'hésitez pas, messieurs, à consulter surtout.
Merci beaucoup, professeur Julien. Maintenant, on va lancer notre séquence tendance. On va l'ouvrir avec la chronique très dynamique, vous allez la voir, de la coach Anouk Garnier. Elle nous a préparé aujourd'hui une petite session de remise en forme à base de squat. Ensuite, c'est Elsa Lévy qui va nous parler aujourd'hui de quelque chose de très pratique. Comment faire vraiment durer nos téléphones portables ? Et enfin, on terminera en beauté avec une évasion sur une île grâce à la chronique de Gavin Clémenté Ruiz. Il nous embarquera sur l'île de Madère. Alors rien que pour ça au moins, restez sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, les tendances dans tous les secteurs qui rendent notre vie plus agréable, plus facile. Alors justement, ce qui est particulièrement important dans notre vie de tous les jours, c'est d'avoir la patate, la grande forme. Et c'est ce que vous nous promettez à nous Garnier. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Et pour cela, je crois qu'on va faire des squats aujourd'hui. C'est quoi un squat en quelques mots ?
En quelques mots, c'est s'accroupir et se redresser. En gros, c'est à peu près ça. Ouais.
Mais si on en fait beaucoup, ça pique un peu. Hein.
Ça pique un petit peu.
Ah oui, si vous faites une fois, ça ne sert à rien. Hein, ensuite, ce sera à vous de jouer, Elsa Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez du pratique aujourd'hui dans votre chronique. Grâce à vous, on va apprendre à faire durer nos téléphones beaucoup plus longtemps. Mais à combien de temps ?
Ah bah ça, mince, j'ai pas la réponse. Mais plus, ans, mais plus que.
Plus qu'un an.
Plus qu'un an ou six mois, comme est l'espérance de vie. C'est 2-3 ans l'espérance de vie. Donc au-delà de ça, au-delà de leur espérance.
C'est bien, on va voir loin. Et enfin, on terminera la séquence tendance du jour avec un beau voyage. Et c'est vous qui serez notre guide touristique aujourd'hui, Gavin Clémenté Ruiz. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous nous embarquez où aujourd'hui ?
Je vous emmène à Madère.
Wow.
Ça reste l'Europe.
C'est génial.
C'est hyper facile pour y aller.
Et c'est pas très cher, hein, je crois.
Eh ben non.
Ah, c'est
vous allez
ça,
voir.
Tout est parfait. Merci Gavin. L'évasion avec vous, ce sera dans quelques minutes. Mais à présent, on va enfiler les baskets dans Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Anouk Garnier, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous en studio, même si on sait d'avance qu'il va falloir lever nos fesses de nos sièges. Dites-nous, allez, ça ne va pas trop piquer, rassurez-nous.
Non, ça va.
Qu'est-ce
aller.
Qu'on va faire ?
On va faire des squats aujourd'hui.
Eh oui.
Oui, on aime bien les squats.
Bah, on est surtout obligé d'en faire pour avoir un beau fessier.
Alors, effectivement, l'objectif, on va dire, numéro un des squats, c'est de renforcer le bas du corps. Je crois que vous aimez bien d'ailleurs les squats, Julia.
Non, j'aime pas ça, mais je pratique.
Tout le temps,
dans l'émission, elle se lève, elle peut pas s'empêcher.
Et là,
même moi, du coup, je me dis, je vais faire la chronique, mais en position squat.
Ah ouais, complètement.
Ici, regardez. Voilà.
Ça va être dur. Non, ça
non,
va,
non pas c'est pour trop vous. Bien, vous pouvez essayer, on est bien.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ça me fait pas penser à autre chose.
On verra des petites choses.
La chronique dure 6 minutes. Voilà.
Attention. Attention.
Moi aussi, je vais rester comme
on
ça.
Verra, on voilà. verra tout à l'heure si Julia fait bien ses squats.
Là, je suis bien, là, je suis accroupie sur ma chaise aussi.
J'ai un peu peur, quand même.
Julia est debout.
Effectivement, l'objectif numéro 1 du squat, c'est de renforcer tout le bas du corps, donc les cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, l'intérieur, les fessiers. Et si vous mettez une charge, vous pouvez travailler aussi vos abdos.
Une charge, ça veut dire quoi ? Je prends Gavin sur le corps ou
voilà, exactement.
Sur le dos.
Mais vous devez lui demander son consentement.
Ouais, c'est quand même
évidemment.
Mieux.
J'accepte
c'est
quand même tout de suite.
Oh, c'est gentil, Gavin. C'est
et
ma forme.
Si vous mettez une charge ou une résistance, vous pouvez travailler aussi vos abdos et votre dos. Donc, c'est vraiment l'exercice complet par excellence.
Et la charge, ça peut être ma fille, par exemple, aussi.
Exactement,
je prends sur le dos,
j'ai
plus légère que Gavin.
C'est
vraiment rien de méchant. Bah,
qu'est-ce que vous sous-entendez, là ?
Votre fille, c'est une bonne
15 kilos, c'est bien,
c'est
non ?
Parfait, c'est parfait, c'est pas trop. Après, le poids de corps aussi, c'est très bien. Travailler à poids de corps, c'est quand même très,
je pense
très bien.
Ça suffit au départ,
ouais,
déjà, c'est
voilà.
Ça. Bon, comment
ensuite,
allez-y.
Je vais vous donner un bénéfice caché un petit peu, que très peu de monde connaît. Vous travaillez votre santé articulaire quand on fait des squats complets. Là, vous voyez, en fait, je suis en train de rester comme ça, etc.
Alors, je vous signale, pour ceux qui n'ont pas
l'image,
parce qu'on peut les voir sur les réseaux
sociaux. Je suis sur ma chaise, en position
de squat. Et Julia le fait, mais Julia, je sens qu'elle
tente.
Va tomber, par contre. Non,
ouais.
c'est pas mal.
Bien okay. calé.
Bien
calé.
Ça.
Alors, la mobilité articulaire, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas ?
Bah,
ça vous parle ?
Le fait que les articulations, elles bougent bien, quoi, dans un sens, dans l'autre, que ça s'emboîte, que ça bouge.
C'est ça. Et même dans les amplitudes, on va dire, les plus complètes possibles. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'amener mon genou à la poitrine sans ressentir de petites douleurs, de petits pincements dans ma hanche, par exemple.
Julia, est-ce que vous arrivez à mettre les genoux sur la poitrine ?
Ouais,
c'est bon.
Pas mal. Ouais, pas mal.
En baissant
mal,
la poitrine,
Julia.
Ça compte comme ça parce qu'elle s'est baissée en avant.
Si, ça va.
Mais
ça
surtout,
va,
elle est sur son siège là.
Ouais.
C'est au sol. Fait gaffe, hein.
Et en fait, ce qui est intéressant sur cette mobilité articulaire, c'est que ça évite d'avoir des douleurs. Quand vous vieillissez, vous perdez cette mobilité petit à petit. Mais il faut absolument l'entretenir et travailler l'élasticité de ces tissus.
Bon.
Et le squat, il est excellent pour ça, parce que vous travaillez la cheville, le genou, la hanche. Enfin, vraiment, on est assez au top avec ce squat. Et d'ailleurs, vous parliez de votre fille, Mélanie, tout à l'heure. Vous avez déjà vu votre fille quand elle veut s'accroupir ou quoi ? Elle fait un squat parfait, normalement.
Ah oui,
les enfants font des squats parfaits, ce qui prouve que nous sommes faits pour faire des squats.
Mais évidemment, mais ça a l'air génial. Et ça veut dire qu'on perd ce don après 4 ans, quoi.
On
c'est
perd
ça,
ouais, ça. Allez, 6 ans.
Six ans,
on n'a pas bougé, on perd ce don.
Alors, comment faire un bon squat ?
Alors, vous allez vous mettre debout ici dans le studio. Voilà, voilà.
C'est bon.
Et vous pouvez le faire chez vous. Si vous êtes en voiture, ne le faites pas quand même. Vous mettez les pieds assez larges au sol.
Ça, c'est fait.
Donc, à peu près largeur des épaules, vous voyez à peu près.
Ouais, moi, j'ai des grandes épaules.
Un peu plus large. Vous êtes Schwarzy. Et vous poussez les pointes de pied un peu vers l'extérieur, très légèrement. Voilà. Et c'est très
sérieux
parce que tout le monde se met en Superman. Et vous allez chercher à descendre vos fesses le plus bas possible. Vous rapprochez du sol. Le plus bas. Ouais, je vous vois presque plus, c'est génial.
Et
vous remontez.
Mais
on a des bons squats ici aujourd'hui. Les mains, vous les mettez où vous voulez.
Ah,
vous pouvez même les mettre sur le
prière.
Ouais, au top. Il faut juste, quand vous êtes en bas, vérifier que vos talons restent au sol. Donc si les filles, vous avez des chaussures à talons, c'est plus facile.
C'est ça,
et la deuxième chose à vérifier, très importante, c'est vos genoux. Ouais. Est-ce que vos genoux vont bien dans l'alignement de vos pointes de pied ?
Je sais pas, mais moi, ils craquent en tout cas.
C'est l'échauffement. Et la dernière chose, c'est essayer de redresser bien sa poitrine. Voilà. Et de le faire tout simplement doucement. Vous prenez votre temps. Vous voyez, quelques squats, ça fait du bien.
Mais combien on en fait ?
Si au bout de 5, ça brûle,
ça va pas.
Combien on en fait, ça va dépendre déjà de ce qu'on veut travailler.
Les fesses. Les articulations, je m'en fous.
Et ça dépend.
Les cuisses.
Dépend aussi de votre condition physique. Si vous commencez direct avec que des séries de 20 squats, ça va être compliqué. Vous allez avoir mal. Demain, vous bougez plus, etc.
D'accord.
Donc, déjà, entre 5 et 10, 3 séries, c'est déjà bien. Voilà.
Bon,
c'est
ça, déjà pas mal.
Ça picote un peu, hein, quand
ça
même.
Ça souffler, ouais. Moi.
Est-ce que tout le monde vraiment peut en faire? Alors, j'ai bien compris que les petits, ils avaient un don particulier jusqu'à 6 ans. Après, voilà. Si on est en bonne santé, là, on en fait. Mais enfin, il n'y a pas de contre-indication.
Non, justement, je trouve que c'est très important de faire des squats complets. Et bah, comme vous l'avez vu, vous pouvez le faire, là, comme ça. Ce qu'il faut, c'est ne pas aller trop vite. C'est vraiment prendre son temps.
Il faut que sentir que ça brûle un peu quand même. C'est
ouais,
ça,
après,
un petit peu.
Pas forcément. Si vous êtes dans un objectif santé, 5 squats doucement, ça suffit. Mais Julia qui fait non,
elle
moi
dit plus rien.
Moi, je suis objectif Gilo
voilà,
cet été.
Objectif Gilo.
Alors comment
on fait ? Eh ben, allez-y, faites des squats toutes les heures. Vous faites des squats.
Qu'est-ce qu'elle fait Gilo pour avoir ce score ?
Je crois qu'elle mange beaucoup, Gilo.
Non mais elle fait des squats.
Je pense qu'elle fait quelques squats. Mais honnêtement, je suis pas sûre que ça soit que ça.
Elle fait quoi d'autre ?
Ah non, elle fait au moins 2 heures de sport par jour. Il y a un docu qui sort.
Elle doit faire des fentes, elle doit faire plein de choses.
Elle fait de la course sur tapis, elle fait de la muscu.
De la course en squat, c'est pas mal.
Elle ne fait que ça, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et Anouk, c'est pas mauvais pour les genoux d'aller si bas ? Parce que moi, je vous disais, il a vraiment craqué le genou droit. Je sais pas, je sais que vous n'êtes pas rhumatologue.
Non, ça va aller, ça va aller. Alors, effectivement, il y a une croyance un petit peu que si on descend très bas sur le squat, ça fait mal aux genoux. Et en fait, vous savez quoi ? C'est l'inverse. Si on s'arrête à demi amplitude, c'est là où la pression est plus importante à la moitié.
Et
donc
vous êtes toujours en squat sur votre siège là depuis le début.
En fait,
vous avez pas mal là.
Mais non, je suis super bien.
Et là, vous travaillez une chaîne musculaire là ?
Bah là, je travaille un peu tout, mais je travaille surtout ma mobilité.
Il y a notre réalisateur qui vient de dire en fait, elle est coincée, elle l'a pas dit. venez
me sortir, les gars, venez me sortir.
Mais c'est génial. Et je crois que vous conseillez de mettre un petit rappel dans son téléphone et toutes les 2 heures de faire ça.
De faire des squats régulièrement dans sa journée, par exemple.
Toutes les 2 heures.
Ouais, voilà, toutes les 2 heures, de faire juste 5, ça va. Regardez.
Ça prend 35 secondes.
Mais voilà,
moi
c'est
j'en
ça.
Ai fait 7, hein, je crois. Pas mal.
Et pour la santé, c'est très intéressant. Et je dis même, si on voulait, ce qui serait génial, dans l'idéal, dans le monde idéal, tout le monde ferait des pauses squat au lieu de faire des pauses clope et des pauses café. Ça serait quand même mieux.
Mais ça serait vraiment dans un monde idéal.
Le squat, c'est vraiment la vie. Hein, vraiment.
Ça, c'est sûr. Le squat, c'est la vie. On va s'arrêter sur ça.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. Notre séquence tendance se poursuit avec nos 3 chroniqueurs, toujours à nos côtés en studio. Alors, on a un peu les cuisses qui brûlent après la séance de squat. Ah si, franchement, ça brûle. Merci à nous Garnier, mais ça va, ça nous a fait du bien. Maintenant, c'est à vous de nous présenter votre tendance, ou plutôt vos conseils du jour, Elsa Lévy, sur un sujet qui va en intéresser plus d'un, je pense.
Eh bien, j'espère, c'est pour les téléphones, oui, parce que je suis tombée sur une archive de 1990 du JT de France 2, enfin Antenne 2, où Daniel Bilalian annonçait l'arrivée, je cite, d'un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux, c'est pour demain, 1993, disait-il. Voilà, et 30 ans plus tard, on vit avec, on dort avec, on mange avec, on fait des squats avec, on va aux toilettes avec. Le problème, c'est que ces appareils fabuleux ont rarement une longue espérance de vie. Alors, on les soupçonne même d'obsolescence planifiée, au point qu'on finirait presque par regretter le bon vieux Nokia 3210 des années 2000. Vous changez à peu près tous les combien de téléphones ici ?
Oh bah un an et demi, je dirais.
Moi aussi, à peu près pareil.
Un an et demi, 2 ans max,
ouais,
on va dire.
C'est ça. Anouk, pareil.
Bah, ça fait très peur. En fait, en moyenne, l'espérance de vie d'un téléphone, c'est 2-3 ans, 4 maximum. Mais on peut prolonger ça. Et en glanant mes informations auprès de professionnels multimarques, j'ai imaginé un petit outil mémotechnique, la règle des 4 C.
Rien à voir avec la 5G, hein, les 4 C.
La 4G, on reste sur la 4G. Alors pour commencer, on a le C de chargeur. Okay. Voilà. Alors est-ce que comme moi, vous avez tendance à charger votre téléphone toute la nuit ?
Mais oui,
il
oui,
ne faut pas faire ça.
Ça m'arrive de me réveiller à 3 heures, il est chargé complet, mais je le laisse charger.
Oui, mais c'est très mal.
Ah bon, pardon.
Ouais. En fait, là j'ai un scoop, je pense, pour beaucoup de monde. Sachez qu'il vaut mieux charger son téléphone plusieurs fois par jour, avec des petites charges, que de lui injecter une charge complète d'un coup. Les experts préconisent d'avoir la batterie toujours entre 40 et 60%, ne jamais dépasser 60%.
Ah bon ?
Et ne jamais aller en dessous de 15%.
Ah bon ?
Ah bon ?
Ah ouais. C'est un scoop.
Moi, j'attends qu'il n'y en ait plus.
Je fais tout l'inverse.
Ah ouais, moi aussi, d'accord.
Là, vous ne vous relevez plus de votre squat.
Hein. Ok, là, j'ai.
Et si on veut vraiment rendre la batterie centenaire, une fois par mois, on la vide intégralement et on la charge entièrement. Aussi, on évite d'utiliser un chargeur d'une autre marque. Je suis sûre que vous faites tous ça.
Bah oui, évidemment.
Parce que c'est moins cher, même s'il est compatible. Sachez qu'il n'aura jamais la bonne puissance. Soit il sera plus puissant que le téléphone et va abîmer la batterie, soit il sera moins puissant et mettra plus de temps à charger. Alors, est-ce que comme moi encore, vous utilisez votre téléphone pendant qu'il charge ?
C'est la base.
Oui. C'est la base du téléphone, d'être branché à un fixe,
oui,
en fait.
Non, c'est ça.
Eh bien, c'est très mal aussi.
Bon, d'accord,
ça
on comprend mieux pourquoi il tient pas. Hein,
mais ça abîme la batterie, en fait. C'est de la surchauffe permanente. C'est comme les applications qu'on laisse ouvertes toute la journée.
Ah oui.
C'est la base. C'est la base, alors que ça fait tourner l'appareil à plein régime, mais pareil, ça bouffe la batterie. Voilà, ensuite on a le C pour la coque du téléphone. Donc on est dans le deuxième C.
Oui, on avait le C de chargeur. Le premier, le deuxième, c'est coque de téléphone.
Voilà,
okay.
Alors il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. J'en ai même vu, là, des coques anti-gravité et antibactériennes. Ouais. Ça va être un truc Covid. La coque
un
protège...
truc typo, surtout, je pense. À
ouais. Aussi. C'est bon. La coque protège des rayures et aussi les coins de l'écran. Et en plus de la coque, il faut également poser un film de protection. Parce que dès qu'on remarque une micro-fissure, on doit changer l'écran. On a tous en tête des écrans totalement explosés. On a déjà vu des gens avec ça.
Et bien, sachez tout le monde que... a des écrans nickel ici, j'ai l'impression. Non, voyons Anouk.
Oui, mais c'est un.
Non, mais ça, la coque, elle est. Ah, en fait, elle est exprès.
Mais il est fracassé.
Non,
celui-là.
Il est fracassé, mais c'est la protection qui est fracassée.
Ah, bon, ça va.
Voilà. Voilà. Alors, même si le téléphone fonctionne encore et qu'on peut s'accommoder de plus avoir accès à certaines fonctionnalités, sachez qu'il y a des petits bouts de verre qui peuvent endommager les composants internes. Donc, on ne reste pas avec un écran fissuré. Ensuite, il y a le C de climat.
Ah, ok, quel est le rapport avec mon téléphone?
Bah si, moi je vois bien, tu ne le laisses pas en plein cagnard.
Ah, dans le froid, il ne marche pas non plus.
Ouais,
dans le
aucune température extrême, voilà, donc on évite de leur faire prendre des bains de soleil en terrasse ou ailleurs.
Moi, il a failli mourir plus d'une fois à cause
du soleil.
Et d'ailleurs, dans ces cas-là, il est tout noir et il se met...
Oui, il s'éteint.
Mais c'est comme nous, c'est une insolation. Voilà, et pareil pour le froid. Et aussi, le téléphone déteste le climat tropical. Donc, une goutte de pluie pendant votre coup de fil ou par exemple, les vapeurs dans une cuisine peuvent entrer dans les composants et faire même des courts-circuits.
C'est quoi le dernier C ?
C'est celui qui arrive, c'est le C de cleaning.
Mm-hmm. Cleaning.
Parce que nettoyage, ça ne marchait pas. Donc, je l'ai mis en anglais.
<C'est ça. rire> En espagnol, ça ne marchait pas non plus. Limpiar, non, ça ne marchait pas.
Mais il faut toujours un peu d'anglais dans les trucs. Donc, un téléphone, c'est un nid à poussière. Et à la longue, les petits résidus risquent de l'abîmer et de créer des faux contacts. Donc, on nettoie fréquemment avec des lingettes spéciales et un chiffon en microfibre. Ça, c'est magique pour récupérer un écran clean. Et pour le connecteur, le petit port où l'on branche le chargeur, eh bien, de temps en temps, on gratte doucement avec une pince métallique parce qu'il y a plein de résidus qui se mettent là-dedans.
Vous faites ça, Kevin, bien sûr.
Tous les soirs.
Tous les soirs.
Tous les soirs.
Non, mais pas obligé tous les soirs. Ou une brosse à dents souple neuve, uniquement, pas la vôtre. Voilà, alors après, même si vous avez suivi les 4C et que votre téléphone tombe quand même en panne, parce que ça reste un téléphone, c'est pas Highlander, eh bien, avant de faire un nouvel achat, si jamais l'appareil n'est plus sous garantie, sachez que la plupart des smartphones se réparent.
On n'y pense pas, mais
on n'y pense pas, mais ça se répare. Il y a des réparateurs agréés pour ça. Et l'Agence de la transition écologique a créé un annuaire en ligne où ils sont tous recensés. Ça s'appelle reparacteur.artisanat.fr.
Parfait, merci beaucoup Elsa pour toutes ces astuces
avec
qu'on
plaisir.
Va bien sûr mettre en pratique. Moi, j'arrive pas à garder mes téléphones plus de 2 ans, donc comme j'en ai marre, je vais suivre tout ça, tous ces 4C à la lettre. Alors, on va voir si le climat est correct là où va nous embarquer Gavins Clémenté Ruiz pour sa chronique. Vous travaillez au Guide du Routard et on vous retrouve tous les samedis sur Europe 1 dans Samedi en France aux côtés de William L'Énergie. On veut du soleil, Gavins, on veut partir, on veut aller loin. Faites-nous rêver un peu.
Ah oui. Alors. On y va.
Ouais, c'est
alors du soleil, ça j'en ai. On veut partir, on peut. Loin, pas trop quand même.
Non, mettons pas c'est... décalage horaire, s'il vous plaît.
Eh ben, j'ai tout ce qu'il faut.
Alors, pas de test.
Pas de test. Ah,
il y en a.
Je fais un peu la grimace quand même. Si, un petit test antigénique.
Non, mais pas de quarantaine au moins.
Pas de quarantaine.
Pas de quarantaine.
Pas de visa. Juste la carte d'identité et on part à Madère.
Génial.
Madère. 3h40 d'avion. Il y a des compagnies low cost qui font ça très très bien. 3h40 d'avion depuis Paris. On va partir dans cet archipel qui appartient au Portugal, donc pas besoin de visa. On reste en Europe, c'est très bien. On peut même partir avec sa carte vitale si on a un problème sur place, ça peut être utile quand même, pour savoir. Donc on va juste aller à Madère avec un petit test quand même antigénique, normalement 72 heures avant. Ça
mais avant,
changer.
Et quand on doit rentrer, on en va aussi ?
Eh bien, peut-être pas. Donc il faut vraiment vérifier avant de partir parce que ça change. Je ne veux pas vous dire tous les jours, mais presque.
Et vous disiez que ça n'était pas trop cher, mais il faut compter à peu près combien ?
J'ai regardé. Si on veut partir pendant les vacances de février, il faut compter 200 euros par personne.
Ça va.
Ça reste abordable.
Pour le vol.
Le vol aller-retour. Le vol. Voilà. Hein. Ça reste quand même abordable quand même en ce moment, en plein de vacances scolaires. Donc,
oui, c'est pas Paris, on atterrit où à Madère ?
À Funchal.
Funchal.
Je suis déjà
parti.
C'est l'aéroport Cristiano Ronaldo.
Oh, génial.
C'est son île.
C'est la vraie question, c'est combien de degrés ?
Il fait 17 degrés en ce moment. C'est un peu plus que ce qu'on a.
Et ça va aller en s'améliorant. En vacances de février,
exactement,
on peut compter sur un petit bain.
Ça va monter, ça va être sympa. Et c'est vraiment sympa. Vous pouvez y aller. Alors, vous mettez juste un petit t-shirt, un petit pull et peut-être aller
petite doudoune fine pour y aller, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir vous amuser là-bas et profiter du climat. Alors, si vous avez fait des squats hein, grâce à Anouk, vous pouvez faire de la randonnée.
Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on fait sur place une fois qu'on est
c'est
à Madère?
C'est l'île de la randonnée, on s'y promène, il y a plein de levadas, ce sont des espèces de petits sentiers le long des montagnes qui courent comme ça. C'est vraiment très beau. Alors, et parfois, il y a des points de vue, je l'ai fait, on a la mer face à soi, on a la montagne toute verte juste à côté.
Ah, c'est vert, c'est très vert.
L'intérieur des terres est très vert, c'est vraiment très
on
beau.
On peut il y a marcher vraiment des toute la journée. Quoi.
On fait de la marche. Et puis aussi, il y a un petit côté un petit peu suranné. C'est l'île des Anglais. Hein. Il y a Agatha Christie qui allait dans des vieux hôtels, dans des vieux palaces, qui ne sont pas très très chers. Franchement, allez, pour 100 euros, ça, c'est pas donné, mais 100 euros la nuit, on a un palace, on est au bord de l'eau et on peut se prendre le soir un petit verre à la terrasse. Là, en ce moment, on peut y aller à la terrasse. On boit la poncha. La poncha, c'est le punch, hein, c'est un alcool avec très fruité, avec modération. Ou alors, le vin de Madère, bien entendu. On est dans l'île où on le fabrique.
Ah oui.
Un petit verre à l'anglaise, comme ça, le soir, avec le soleil. C'est génial.
Et donc, quand on dit que Madère est le jardin de l'Atlantique, c'est vrai. Hein,
carrément. On peut aller à Funchal, dans la capitale. On va voir le jardin tropical. On va voir le jardin botanique. J'aime bien ce jardin. On se croirait dans le jardin de Alice au Pays des Merveilles, vous savez, avec ses damiers comme ça. C'est très coloré. C'est jaune, c'est rouge. C'est vraiment très, très beau. Il y a d'autres endroits à visiter tout le long de l'île. Et vous le verrez avec toutes les randonnées à faire.
Et mais dites-moi, là, vous êtes en train de nous faire rêver, mais il y a quelque chose d'important dans le voyage. C'est est-ce qu'on mange bien là-bas?
Julia qui veut manger tout de suite.
Ah, moi je veux manger.
Elle a fini les squats.
Voilà,
j'ai faim.
Vous n'allez pas me contredire, ça fait partie du voyage.
Ça fait partie du voyage. Et on mange très très bien. On mange du poisson. C'est l'espada là-bas. Ça s'appelle l'espada. C'est le poisson épais qu'on mange. Alors bizarrement.
L'espadon.
Ouais, c'est l'espadon. Alors eux ils appellent ça poisson épais. On le voit partout. Je veux pas froisser mes amis.
C'est pas votre poisson préféré.
Si,
très très bon.
Ils servent ça avec de la banane frite. C'est assez original. C'est vraiment très très bon. Et il y a aussi de la viande, l'espetada. Alors là c'est des espèces de brochettes de viande qu'on vous sert avec la brochette pendue devant vous.
Et
comme ça, vous enlevez tout doucement votre morceau de viande. C'est vraiment très bon et c'est pas très très cher. Vous pouvez aller 10-15 euros, vous avez un bon repas.
Merci, on a très faim maintenant grâce à vous. Allez, un dernier coup de cœur à Madère. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à Madère?
Il y a quelque chose que j'ai adoré faire, c'est un tour en sidecar. Vous êtes avec Philippe, il s'appelle Philippe le monsieur. Il vient
vous êtes
chercher.
Sûr que je vais le trouver, Philippe?
Vous allez deux, trois, à Funchal, au port.
Si j'y vais, je ne trouve pas Philippe, je ne serai pas contente.
Madeira Sidecar Tour, je vous conseille.
Ok, Madeira Sidecar Tour.
Ah ouais,
c'est génial.
Vous le trouvez, il vous emmène en journée, bien sûr.
On vient le voir de votre part, Gavin. Salut Philippe.
Je l'ai fait avec lui et j'ai adoré. Okay. Et vous êtes soit derrière lui, soit à côté dans le sidecar et vous vous promenez dans l'île. Mais alors, le mieux, c'est le soir. Le soir, vous avez la montagne de Funchal qui s'éclaire avec plein de petites lumières qui scintillent. Vous êtes dans le sidecar, vous êtes au ras du sol. Et vous voyez ça, vous avez l'impression d'être dans un conte des mille et une nuits.
Vous avez donné envie, c'est génial. Vous y alliez, vous, les filles?
Moi, j'y vais direct. Moi, il m'a déjà eu à randonner. C'est bon.
Alors, moi ce qui me fait hésiter, c'est que c'est l'Atlantique, donc la mer, elle n'est pas chaude.
Ah, alors la mer n'est pas très chaude et il n'y a pas beaucoup de plages. Il faut être honnête aussi. Mm-hmm. C'est pas l'endroit où on va se baigner en priorité. Il y a une petite île à côté qui s'appelle Porto Santo, qui fait partie de l'archipel de Madère, où on peut aller. C'est en bateau, c'est un peu plus complexe. Donc, évitez il y a des piscines si vous voulez aussi. Oui. C'est moins rigolo.
Et je crois
mais
que les habitants
chauffés.
De Madère sont très sympas. Mon mari a été, mais c'est très chaleureux,
alors,
très convivial.
Un truc, c'est l'arrivée à l'aéroport en avion. Il est spectaculaire. Vous avez l'impression d'atterrir dans l'eau.
Vous avez même très peur, je crois.
Et parfois, l'avion repart parce qu'il a loupé un peu
ça arrive.
Ça fait partie du charme.
Ça fait partie du voyage. Mais merci beaucoup, Gavins, pour ce voyage. Ça fait du bien de s'évader un peu par les temps qui courent. Et j'espère que très bientôt, on pourra voyager partout. On le souhaite ou on le peut avec au moins de contraintes, ça serait le bienvenu. Voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on sera de retour bien sûr lundi à 11h. Et Mélanie, quel sera le programme?
Alors lundi, dans Bien fait pour vous, on parlera de mode. On va apprendre à bien choisir ses vêtements selon sa morphologie, comment bien associer les couleurs, les motifs, les matières. Et on vous donnera aussi nos conseils pratiques pour avoir un dressing plus éco-responsable, car ça aussi, c'est très tendance.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.